Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Alix, je suis ravie de te retrouver pour ce 9e épisode de nos conversations thérapeutiques. Donc, tous les mois, on se parle, pour ceux qui ne le savent pas, de sujets qui nous tiennent à cœur et on rentre vraiment dans le sujet de manière quasi... j'ai envie de dire psychanalytique. Tu es thérapeute et hypnothérapeute au sens large. Donc, tu t'appelles Alix Georges et en tapant ton nom sur n'importe quel moteur de recherche, on peut retrouver ton site internet par le biais duquel on peut prendre rendez-vous avec toi. Donc, sans plus tarder, Alix, on va annoncer le sujet d'aujourd'hui, c'est le désir. Donc, première question, quelle définition doit-on donner au désir selon toi ?
Oui, bonjour Estelle, merci pour ton invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le désir. Donc, le désir, l'acception courante, c'est une tension, c'est une aspiration vers un but qui est considéré comme une source de satisfaction. C'est une tendance, en fait, qui est consciente à nous-mêmes pour tendre vers le plaisir et qui est accompagnée, c'est un vœu, c'est un souhait pour avoir un but à atteindre. Tu vois ? Okay. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le désir n'est pas le besoin.
Ah.
Le désir n'est pas la volonté.
Ouais.
Le désir, c'est ça, c'est cette spécificité qu'on va essayer d'étudier. Ça. Le désir est une tension vers un projet. Il implique toujours une attente qui doit être satisfaite. Ce qui est intéressant pour comprendre la notion du désir, c'est de remonter à l'étymologie du mot désir, qui va bien t'expliquer cette notion. Dans la Rome antique, en fait, donc, ça vient du terme latin desiderare. Qui a pour racine le mot sidus, qui veut dire astre. Et en fait, donc, dans la Rome antique, l'opposé de desiderare, c'était considerare, qui voulait dire contempler un astre. Et l'opposé de desiderare, c'était regretter son absence. Donc, desiderare, le mot désir, vient du manque de l'absence de l'astre, de l'étoile, métaphorique aussi, imaginaire, notre étoile intérieure, etc. Donc, en fait, on ne désire que par la privation. Et le sens positif vient par la suite. S'il y a une absence, donc ce fameux astre, on aspire à l'effacer, on aspire à la dépasser, et donc on souhaite quelque chose qui nous manque. C'est ce que j'essaye, donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre dans cette notion de désir. Le désir est toujours creusé par le manque.
C'est ça.
Je te disais justement qu'il faut le différencier du besoin. Le besoin va combler. Besoin de nourriture, besoin de manger, besoin de dormir, je te parle de besoins vitaux. Quand le besoin est assouvi, le besoin comble, alors que le désir creuse. Le désir, il y a toujours cette notion de manque et de privation, et c'est ce qui va créer cette tension à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de nous projeter. C'est là où le désir peut être très positif, quand il nous projette vers quelque chose, comme il peut être négatif quand on devient esclave de son désir.
On va en reparler après.
Exactement.
Donc c'est ça, donc manque et incomplétude.
Exactement.
C'est ce sentiment d'être incomplet si on n'accomplit pas ce désir, enfin si on n'assouvit pas
en
ce
fait,
désir.
En fait, c'est exactement ça. Ouais. Désirer, c'est faire l'expérience de son incomplétude et de celle de l'autre. Et ce que nous apprend cette notion, en fait, on désire tous. Le désir, c'est une énergie vitale. Si tu n'as pas de désir, c'est un des symptômes de la dépression, c'est que tu vas mal. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais
donc c'est dans ce sens.
Je vois tout à fait. Bah, c'est de la libido, en fait, la libido au sens large, sans parler de sexe, enfin de sexualité, mais c'est de la libido pure.
Oui, c'est exactement ça, c'est la pulsion libidinale qui est une pulsion sexuelle, mais qui est aussi et surtout une pulsion de vie, qui est à l'inverse, en fait, de la pulsion de mort. Donc la pulsion du désir, c'est une pulsion qui est extrêmement positive et qui est une pulsion d'énergie vitale. Elle nous amène, il y a la dimension d'un projet, d'une quête, d'une recherche, et donc d'un dépassement de soi. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est ça.
Et c'était... Donc, il faut faire l'expérience du désir. Mais donc, le creuset de ça, c'est que nous faisons en même temps l'expérience du manque. Et c'était Sartre, en fait, qui disait... Il appelait ça les gros pleins d'être, les gens qui ne désirent pas, qui sont tout pleins d'eux-mêmes et qui ne sont pas des gens intéressants.
En fait, j'en connais.
Ça n'existe pas. Tous. Ça n'existe pas vraiment en réalité parce qu'on désire tous quelque chose. Enfin, c'est peut-être ce qu'on va voir justement.
Oui, mais qui se rabattent en général sur des désirs assez abscons, enfin des désirs un peu basiques, on dira sexuels ou. Enfin, c'est fondamental, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de désir indépendamment de leur pulsion physique et animale. En fait.
Exactement. C'est ça. Okay. Et un être qui serait totalement complet ne désirerait pas, et c'est totalement désespérant d'être pleinement plein, mais d'ailleurs, ça n'existe pas.
Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce qui nous manque au fond et pourquoi on désire et qu'est-ce qu'on désire ?
Voilà. Alors, d'où vient
trois
le manque ?
Excuse-moi, en une.
Qu'est-ce qui nous manque ? C'est la grande question métaphysique. En fait, on ne sait pas. Bah c'est, c'était Freud. Pour lui, sa théorie, c'est de dire que le désir, il serait issu d'une trace qui est laissée par un ancien vécu de plaisir très originel, le tout premier. Je ne saurais pas te dire lequel, puisque lui-même ne sait pas. Pour lui, Freud dit que l'on ne peut désirer que ce qu'on a, que ce que l'on a déjà connu, consciemment ou inconsciemment.
Oui.
Donc ça, c'est sa grande notion. Le désir, il a pour but le plaisir. Il est issu d'un sentiment de manque, comme je te disais. Donc en fait, nous recherchons, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On cherche, et d'ailleurs, c'est là, c'est tout le lit de la publicité et du marketing, c'est de nous faire croire que qu'on nous désirons quelque chose. Un sac à main, une voiture, etc. Mais fondamentalement, je ne suis pas sûre que c'est ce que nous désirons. Mais ils vont totalement s'appuyer, les grands publicitaires, sur cette espèce de manque inhérent dont nous ne savons pas, sur lequel nous ne savons pas mettre de mots, tu vois ce que veux dire, des objets, des buts qui seraient capables de nous montrer. Et ce que Lacan expliquait, c'est qu'au fond de nous, nous ne savons pas ce qui nous manque, donc c'est ce que je te disais, et dès que nous croyons nous en emparer, tout de suite le désir passe à autre chose. Ça, c'est une notion qu'on connaît tous très bien. Quand on a attrapé ce qu'on veut, on veut tout de suite autre chose. Et c'était Lacan qui disait... le désir est un singulier furet, c'est comme dans la chanson « il court le furet », que nous voyons disparaître et réapparaître à travers toute une série de jeux de passe-passe. On a tout tenté pour l'éduquer, le réguler, le maîtriser, mais en vain, il n'en fait qu'à sa tête. Et en fait, toute sa théorie, à Lacan, va être de dire, et je suis vraiment totalement d'accord avec ce qu'il dit, que le désir, ce que nous désirons probablement, c'est de désirer.
Bien sûr.
Ce que nous recherchons finalement... c'est cette pulsion de désir, c'est cette fameuse pulsion qui nous fait nous dépasser.
Ça me fait penser à quelqu'un qui est venu dans le podcast, qui s'appelle Jonathan Lehmann, et on parlait des addictions. Et souvent, on est addict au fait d'être addict.
C'est exactement ça.
C'est un peu la même chose, en fait.
C'est ça.
C'est peut-être les mêmes terminaisons nerveuses.
Nous désirons désirer, et nous cherchons toujours à réaliser un nouveau désir sans véritablement ni réussir ni renoncer. Et là, on peut introduire une notion vraiment intéressante, qui est la notion d'infini. En fait, c'est infini, puisque et il y a une dimension infinie dans le désir qui est philosophiquement très intéressante, parce qu'elle peut nous amener à nous dépasser quand justement nous arrivons à dépasser le désir du sac à main ou de la voiture pour passer au désir de sagesse, d'apprentissage, etc.
Bien sûr. C'est marrant, mais j'ai plein de questions qui me viennent dès que tu parles, donc j'essaye de faire
vas-y,
un entonnoir.
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur le désir d'enfant.
Juste pour bien expliquer cet aspect pulsionnel, c'était Freud aussi qui disait « le désir se passe de parole ». Il s'exprime en fait dans une pulsion qui cherche à se satisfaire. C'est pulsionnel, en fait. Tu parlais du désir d'enfant, on peut en parler. C'est souvent très pulsionnel, ça ne s'explique pas.
C'est ça.
Les femmes, elles disent « j'ai l'horloge biologique qui tourne », mais c'est une pulsion.
Bien sûr. Et puis, c'est même une pulsion qui se manifeste sexuellement. C'est-à-dire que on est attiré par quelqu'un, on a envie de... Voilà, parce que c'est une pulsion.
On veut.
Ouais. Voilà.
Enfin, on désire, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est un des grands paradoxes que les philosophes ont mis en avant sur le désir, c'est qu'en fait, il concerne aussi bien notre part la plus animale, la plus pulsionnelle, comme on est en train de dire, que la plus noble.
C'est-à-dire que... L'inconscient, enfin le...
Le désir de noblesse, le désir de sagesse, de vérité, de quête, etc.
Ah oui, c'est ça important, que tu veux dire, j'avais pas compris.
Okay. Important justement de pas faire, un espèce de distinguo moralisateur entre les bons et les mauvais désirs, parce que les désirs s'entremêlent.
Je vois ce que tu veux dire. Et puis c'est le yin et le yang qui se complètent, quoi. Enfin,
exactement.
D'un
aspect pulsionnel peut arriver justement quelque chose de plus rationnel, de plus construit.
Ils sont parfois opposés, d'ailleurs. Ils sont parfois peut-être un peu opposés, non ?
Mais ils peuvent se réunir, c'est ce que
Ouais.
j'essaie d'expliquer.
D'accord, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait par mimétisme? Est-ce que, par exemple, il y a une forme de comparaison dans le... Enfin, j'ai entendu une fois le terme de désir mimétique. C'est quoi?
Alors, tu as raison. Donc, ça, c'est important d'introduire cette notion. C'était René Girard, donc un philosophe et anthropologue français, qui a parlé de cette notion de désir mimétique. Quand je te disais, on ne sait pas ce qu'on désire, je vais te donner le meilleur exemple que tu connais forcément. C'est les enfants qui se disputent des jouets semblables en quantité suffisante. Donc, il y a deux camions jaunes et deux enfants. Tu peux être sûre et certaine qu'ils vont aller tous les deux vers le même camion jaune. Tu vois,
Bien sûr.
parce que, et ça, c'est une
Ils veulent la
notion,
même chose.
ils veulent,
Oui,
en sachant qu'il y a deux fois la même
oui.
chose,
Oui,
hein, mais
mais parce que
ils veulent le
l'autre le
même.
veut, en fait, parce que l'autre le veut, il le veut. OK.
C'est exactement ça, parce que l'autre le veut, il le veut. C'est ça le désir mimétique. C'est un désir sans sujet, sans objet, qui n'est que l'imitation d'un autre désir. Le postulat, c'est une phrase de René Girard, l'homme désire toujours selon le désir de l'autre. Et c'est très vrai.
Mais c'est tellement
Je
vrai.
te donne, bon, évidemment, l'exemple du luxe qui ne repose que là-dessus. Je veux la
Mais
même
bien sûr.
chose que la fille que j'ai vue sur Instagram parce qu'elle l'a. Est-ce que je le désire vraiment? Je ne me pose même pas la question. Pourquoi un restaurant où il y a la queue nous attire plus qu'un restaurant où il n'y a pas la queue? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que l'autre y va.
Mais j'en viens même au code de la beauté, c'est-à-dire
Bien
qu'en
sûr,
fait,
oui.
je sais pas quand, à quel moment on a déterminé qu'il y avait des canons de beauté, et du
Oui.
coup tout le monde est subjugué par telle catégorie de femmes,
C'est ça.
parce que tout le monde finalement l'adulte. Enfin,
Oui.
qu'est-ce qui détermine le beau? Après,
Oui.
c'est enfin le beau du coup le désir, mais
C'est du
c'est
désir très mimétique en fait. Il y a un exemple très intéressant, il y a une émission de Nicolas Hulot qui allait dans, qui, ça va t'expliquer cette notion, qui est partie dans les steppes sibériennes voir une famille qui vivait dans une tente, enfin tu sais comme il faisait à l'époque. Et il leur demande s'il ne manque de rien,
Oui,
si
je m'en
tout va
souviens.
bien,
Ouais.
ça te dit
Ouais,
quelque
bien
chose.
sûr.
Et en fait, ils n'ont pas compris la question. Parce que
Oui.
pour eux, comme il n'y a pas, pour t'expliquer que le désir, il est toujours lié au mimétisme et à la construction sociale, comme pour eux, il n'y a pas cette société occidentale avec cette offre gargantuesque que nous
Ils ont
avons,
pas de Franprix, pas Instagram et pas la télé.
ils ont un toit, ils ont de la nourriture, ils
Tout
ont
va
une
bien.
famille, que demander de plus? Donc c'est très intéressant, ça te montre bien que cette notion de désir de mimétique et qu'on ne désire que finalement ce qu'on peut connaître éventuellement par l'autre.
Oui, bien sûr, c'est le lien social, enfin le fait d'être en société aussi qui alimente un
C'est
désir.
ça. Et c'est la grande chanson d'Alain Souchon,
Oui.
Foule sentimentale,
Ouais.
avec la
Passez
phrase
votre amour à la machine. Non,
On
c'était
nous
ça?
inflige
Ah
des
oui.
désirs qui nous
Oui, c'est
affligent.
ça,
C'est
exactement.
exactement ça.
Ouais. Oui, mais ça commence par passer votre amour à la machine, je m'en souviens de cette
Non,
chanson.
c'est pas
C'est pas
celle-là.
ça?
Non, c'est Foule
Faites le boule. Ah
sentimentale.
oui.
Faudra
Ah oui,
que.
excuse-moi, je
Oui.
confonds, t'as raison, excuse-moi.
Avec cette phrase, on nous
On nous
inflige des
Claudia
vies.
Schiffer, on nous Paul Lussulitzer, ça y est.
Exactement,
Ouais,
c'est ça.
exact. Magnifique chanson.
Très belle.
Donc du coup, on se retrouve à finalement désirer quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui est très imaginaire, ou qui
Exactement.
se retrouve, enfin qui se renouvelle sans cesse, parce que d'une certaine manière, l'imaginaire d'une personne n'est jamais le même qu'une autre.
C'est ça. Et tu as tout compris.
Ouais,
Le
ok.
désir, il repose sur l'imaginaire, il repose sur le symbolique, il ne repose, je pense, absolument pas sur quelque chose
De
de
concret,
réel.
ouais.
Et tout notre enjeu à nous, en tant qu'être humain, c'est d'aller creuser notre désir à nous
C'est ça.
pour ne pas tomber dans le désir de l'autre,
Bien sûr.
slash le désir
Ouais.
mimétique,
Ouais.
et aussi pour ne pas tomber dans l'écueil de l'insatisfaction chronique.
Chronique, c'est ça.
Puisque notre imaginaire,
Et
surtout
ça,
dans
c'est
nos
un vrai danger.
sociétés, est extrêmement stimulé par la publicité, par l'image.
Bien sûr.
Donc on a effectivement ce grand danger qui nous guette de tomber dans l'insatisfaction chronique
Bien
parce que
sûr.
c'est vrai qu'on n'aura jamais assez.
C'est terrible.
Oui.
Les grands paradoxes du désir et comment on fait pour pas devenir esclave de ses désirs?
Alors, ça c'est la grande leçon des épicuriens
Ouais.
et des stoïciens. Donc pour Épicure, c'est toute la question en fait qu'il va évoquer. Pour Épicure, la sagesse, d'ailleurs, je
Ouais.
fais une parenthèse, le terme épicurien
Bien sûr.
qu'aujourd'hui on utilise est un contresens par rapport à la vraie thèse position. D'Épicure, qui est une thèse d'ascétisme. Alors qu'aujourd'hui, épicurien, on le voit comme...
J'avais découvert ça. Et oui. Je l'ai découvert sur le tard, d'ailleurs. Ouais.
Aujourd'hui, exactement. Pour nous, l'épicurien, c'est le bon vivant, etc. C'est ça. Alors que pour Épicure, c'était pas du tout ça,
le cas. Ouais, mais c'est... je m'en souviens très bien de ça.
Lui, il va très rapidement constater, en fait, que le plaisir est problématique parce qu'il est, il est connecté à une sensation immédiate qui est l'étalon de la valeur. Donc... Il est lié à ce qui est instantané, et pour le renouveler, il faut le diversifier et l'augmenter. Tout le problème de l'addiction.
Bien sûr.
Je veux tout de suite, etc. Et en fait, ce que Épicure constate très rapidement, c'est que le plaisir est finalement très éphémère, qu'il se lasse, et que tous les maux qui sont entraînés par le plaisir sont supérieurs au plaisir engendré. L'exemple typique, c'est l'addiction, ça c'est clair. Et en fait, il va dire cette phrase, le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer parce que cela consiste à se libérer. Hein ? Donc, pour lui, la véritable sagesse, c'est de restreindre les plaisirs. Probablement qu'il va un tout petit peu trop loin dans sa philosophie, mais il introduit cette notion très importante de la désirabilité qui est la rareté.
Tout comme on dit, enfin j'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps, qui dit le bonheur réside dans l'élimination et non dans l'accumulation, en fait.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les stoïciens vont complètement se rapprocher de ça. Eux, c'est là où il y a un petit distinguo à faire, c'est qu'ils vont distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, est-ce que les réactions de l'autre dépendent de toi ? Non. Donc, autant t'en détacher tout de suite. Donc, eux, c'est vraiment la philosophie du détachement pour justement, intérieur, pour exercer son propre jugement, sa propre intelligence et pour pouvoir agir sur ce qui dépend de nous.
Et qui ne dépend que de nous.
Que de nous. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement puissant. Et c'était Descartes qui avait dit, totalement dans la continuité, il s'agit de changer nos désirs plutôt que l'ordre du
bien
monde.
Bien sûr. Ouais.
Oui.
Mais alors du coup, comment on fait ? Tout à l'heure, t'as abordé rapidement le fait d'avoir des bons ou des mauvais désirs. C'est-à-dire, comment on fait pour reconnaître ça ? Est-ce que cette classification est bonne ? Pas tant que ça, vraisemblablement. Tu me disais qu'il ne fallait pas trop tomber dans le panneau de dire il y a des bons désirs et il y a des mauvais désirs.
Là où il ne faudrait pas tomber dans le panneau, je pense, c'est de penser que les désirs pulsionnels et instinctifs sont mauvais, sales. Tu vois ce que je veux dire ?
Parce que du coup, tu enlèves l'instinct. Enfin, tu
exactement.
Vois ce genre de truc, quoi. Donc,
exactement. Et de ne vouloir garder que des désirs plus nobles, etc.
Oui. Ouais.
De l'instinct, de la sexualité, de cette fameuse pulsion libidinale, ouais, peut naître par exemple un désir de sagesse, de vérité, etc.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est ça qu'il faut faire attention.
C'est ça, parce que l'un peut entraîner l'autre, en fait.
C'est ça, exactement.
Oui. C'est une énergie positive ou un obstacle au bonheur ? Parce que, quand on le disait, si tu cherches à accumuler la satisfaction de tes désirs, au bout d'un moment, c'est une quête infinie qui peut te rendre malheureux.
Oui. Voilà. Oui, c'est l'image de Don Juan, par exemple, cette espèce de quête infinie qui désire toujours désirer, qui désire toujours exercer son emprise sur l'autre. D'ailleurs, sur l'image de Don Juan, je renvoie au podcast sur les pervers narcissiques parce que c'est vraiment cette figure avec cette...
Oui, parce qu'avec une, on le disait, les pervers qui placent leur désir au-delà de tout. Et de toute personne.
C'est exactement ça, avec cette espèce d'accumulation insatiable de conquêtes féminines pour combler un manque, pour combler une faille narcissique qui veut jouir de tout à tout prix, refuser les contraintes, ne pas s'attacher. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Don Juan, c'est qu'en fait, donc lui désire clairement la prise. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il désire chasser, en fait. Hein. Non, il désire d'ailleurs plus chasser que la prise, effectivement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que Don Juan suscite chez la femme. C'est
bien
le désir d'être désirée.
Ouais.
Parce qu'on a aussi ce désir en nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important aussi de se rendre compte, avec toute cette dimension également, de répondre finalement au désir de l'autre. Et nous trompons en croyant pouvoir satisfaire cette aspiration.
Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, comment on fait pour que on se berne pas d'illusions, pour que le désir n'alimente pas nos illusions en permanence, parce que puisque c'est une quête infinie, on est quand même de l'ordre du surnaturel, pas du surnaturel au contraire, mais
de l'infini.
L'infini, donc de l'irréel ou de l'illusion,
C'est le grand risque, en fait. Mais en même temps, le désir, je vais tout de suite te donner un contre-exemple, c'est celui qui a mené les artistes à créer de l'art, les philosophes à penser. Tu parlais du désir d'enfant, les femmes à procréer, etc. Donc, le désir, c'est aussi l'art, ouais. la science, l'éducation, l'apprentissage. Et c'est cette force. Alors là, pour le coup, c'est une force positive. Quand ouais. on arrive justement ouais. à déplacer, c'est toute l'idée du déplacement, à déplacer un désir qui pourrait être primaire, qui pourrait être faux, tu vois ce ouais, que je veux dire, vers sûr. Quelque chose de plus intériorisé, de plus construit, de plus travaillé. Là, il nous donne une énergie qui est vitale, qui est intéressante. Mmh, c'est ce que Spinoza appelait le conatus,
ouais.
qui était la base de sa philosophie, qui disait le désir et l'appétit avec conscience de lui-même. C'est cette force qui nous pousse à agir, qui nous fait devenir affirmation de soi et pas asservissement de
Bien
soi.
Bien sûr. Mais il faut en avoir conscience.
D'où l'importance de se connaître.
Ouais.
Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas. Et d'où l'importance de te libérer des désirs illusoires pour renforcer ton toi.
C'est ça. Donc plutôt que de dissocier les bons et les mauvais désirs, c'est les désirs illusoires.
Exactement.
À la limite, c'est plutôt c'est ça qu'il faut chasser, enfin éviter.
Oui.
Et assumer ces vrais désirs qui nous ressemblent et qui sont en ligne avec ce que l'on est vraiment.
Exactement.
Mais ça, faut toute une vie quand même. Enfin, ça prend du temps.
C'est toute une vie, hein. Ouais. C'est notre quête,
je pense. C'est des phases aussi. C'est des phases.
Oui, oui.
Il y a des moments où tu as envie de rien, de rien.
Bien sûr.
C'est possible et c'est envisageable. Et c'est vrai que c'est des états où, bon, tu avances, mais tu ne sais pas trop pourquoi.
Oui.
Et ça, je pense qu'on est tous et toutes à un moment de nos vies face à ce genre de phases qu'il faut traverser et puis qu'il faut.
Qui sont souvent des phases extrêmement fertiles, hein,
mais
en réalité.
Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est comme une espèce de mise en recul, tu vois, où tu te dis, c'est la mer qui se retire pour mieux repartir. Donc,
exactement.
Tu fais table rase.
C'est cette fameuse phrase que je dis souvent aux patients, c'est un gros cliché, mais en chinois, le mot crise veut dire danger, mais veut également dire opportunité.
Bah, bien sûr.
Ces moments dont tu parles, des moments effectivement de grand vide.
Mais c'est même pas tant des crises, à mon avis, finalement. Hein. Je sais pas si c'est des vraies crises, mais t'as des périodes dans la vie. Alors là, c'est difficile de savoir si t'es heureux ou pas, parce que tu ne désires plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu peux avoir ce sentiment, finalement, moi, comme les copains de Nicolas Hulot, là, ça va, j'ai un job, j'ai une maison, j'ai un mari, j'ai...
Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent pas. C'est juste qu'ils ne désirent pas ce que nous désirons en tant qu'Occidentaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent pas construire une famille, qu'ils ne désirent pas avoir une vie agréable,
avoir un lendemain
meilleur. Je pense qu'on a... On porte tout ça en nous. Par contre, quand on se met à ne plus rien désirer, c'est symptôme de dépression.
Mais on ne désire jamais. On peut pas cesser de désirer totalement.
C'est ce que je te dis.
Ouais.
C'est une force qui est extrêmement positive.
On s'en rend pas compte.
Oui.
Mais même si t'as pas les mêmes désirs qu'auparavant, à savoir, un voyage, un job, une paire de chaussures ou je ne sais quoi, ou une amitié ou peu importe. Tu as des nouveaux désirs, mais qui se manifestent au quotidien dans ton action, mais qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avant et qui sont des manifestations de ton action au quotidien.
C'est ça, c'est ça.
D'accord.
Et tu peux désirer des choses extrêmement simples. Tu peux désirer...
bien élever ton enfant,
bien t'occuper de ta famille,
déjà pas simple,
donner un bon repas aux gens que tu aimes,
c'est ça.
Passer une bonne journée.
Il me semble que c'est
des désirs qui sont même très nobles.
Hein. Bien sûr. Est-ce que ça favorise une ouverture à l'autre ? Qu'est-ce que ça génère ? Comment jauger, tu vois, ce rapport à l'autre, finalement, au sein du désir ? C'est-à-dire que c'est une ouverture, mais en même temps,
basculer. Là, dans les exemples que tu es en train de donner, quand tu dis tu peux désirer bien éduquer ton enfant, etc., tu vois bien que tu es en train d'introduire la dimension de l'autre.
Ouais.
Oui. Et c'est exactement cette notion. C'est cette notion qu'en fait, dans le désir... Il y a toujours le manque.
Ouais.
Et en fait, le manque devient positif. Il est une richesse qui va nous nourrir et donc nous projeter vers l'autre.
C'est
mais
ça.
Vers vraiment regarder l'autre.
C'est ça.
Pas
c'est
l'autre
ça.
Pour ce qu'il va peut-être me donner ou ce qu'il représente dans mon fantasme, mais pour vraiment qui il est. Tu vois, donc
Bien
c'est
sûr.
En expérimentant ce manque. C'était toute la théorie de Lévinas dans son rapport à l'autre. Il disait en fait, l'autre nous amène vers l'infini. Donc désirer l'autre, pas au sens sexuel, simplement désirer rencontrer l'autre, c'est finalement aller vers l'infini, c'est regarder l'infini. Et pour lui, c'est ça le moteur du bonheur, c'est ça le moteur de l'amour et de la liberté.
En fait, j'ai envie de le mettre à l'échelle de la société, parce qu'en fait, faire société devrait être un désir. Et aujourd'hui, on a peut-être des crises actuellement,
oui,
sociales, politiques ou autres. Enfin, voilà, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas en très bon état et que la France n'est pas forcément... Enfin, il y a des bons aspects et des moins bons aspects. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a un jeune homme qui est passé dans mon podcast et qui m'a dit une chose en fin d'épisode que j'ai trouvé très sensée. On n'a pas écrit de projet commun.
Oui.
Il dit « Je suis en attente de notre projet commun ». J'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'il est jeune et il a raison.
C'est-à-dire qu'en fait, il a complètement raison.
Ce désir de faire société, c'est vrai qu'on ne le ressent plus trop.
C'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'énorme problème de nos sociétés occidentales, ça, on en avait parlé aussi dans le podcast sur les pervers narcissiques et sur l'ère du narcissisme, c'est l'individualité.
C'est ça.
C'est le fait que tout le monde ne regarde plus que midi à sa porte. Enfin, tout le monde.
Bah si, parce que finalement, on est là à assouvir nos petits désirs personnels sans finalement essayer de trouver une manière d'assouvir un besoin, enfin un désir global.
Exactement. Et en fait, ça, c'est encore toute la théorie de Lévinas. C'est on est heureux, véritablement, quand on rencontre l'altérité, parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous donne de l'énergie, elle nous donne de l'espoir, elle nous donne envie de rencontrer, de vivre une aventure, de sortir ensemble, de sortir de soi, en allant rencontrer autrui. C'est là qu'on devient dynamisant et non plus désespéré. Non,
c'est ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ce que j'observe, c'est qu'on est peut-être tous tombés dans le panneau de la société de consommation. Alors, je ne veux pas passer pour radical quand je dis ça, mais à force d'assouvir nos petits désirs, on en a oublié les grands, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il n'y a pas de petits ou grands, mais certaine manière.
Oui,
enfin, tu vois, quand tu as de la livraison à domicile, du repas, eh ben, j'ai testé. Au début, tu trouves ça extraordinaire. Mais à la fin, tu n'en peux plus, en fait.
Eh ben, bien sûr.
C'est horrible.
Oui.
Tout est horrible dans cette démarche.
Tout.
L'asservissement de ce pauvre garçon qui vient te livrer ton
repas.
Mais
c'est probablement la première chose d'horrible, c'est que dans ce cas, on ne parle même plus l'autre, on ne voit même plus son visage.
Non, mais ça, c'est
sûr. Il est un objet qui se déplace pour satisfaire notre désir de manger. Enfin,
exactement. Et de ne pas se déplacer.
C'est ça.
Et de ne pas gagner son repas, en fait.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je suis complètement d'accord.
Et puis, tu te retrouves avec un repas que tu ne savoures pas.
Non.
Du tout. Parce qu'il est là. Tu vois ce que je veux dire ? On te l'a foutu sous le nez.
Oui.
T'as pas dû le cuisiner. T'as pas dû te déplacer pour aller dans le restaurant. Qui fait... T'as pas dû, je sais pas. Mm. C'est pareil pour la littérature. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai posté une photo d'une librairie sur Instagram, sur le compte du podcast. Et parce que j'étais en librairie, moi j'y vais souvent parce que ça me nourrit, j'adore. Tu regardes les nouveaux livres, etc. Bon, il y en a de plus en plus. Mais... ce contact que tu as avec ton libraire, le fait d'arpenter les rayons, de regarder, d'observer, de sentir, de voir si les gens prennent le livre et le reposent ou le prennent et se l'arrachent et vont payer. Tous ces trucs que tu as quand tu es en physique, en réel, alors qu'aujourd'hui, on le sait tous, tu as une application qui peut te livrer ton bouquet en 24 heures.
Oui, oui.
Bah, tu remarqueras, et moi je l'ai remarqué. Hein. Alors oui, on a tous été un peu con à commander les livres, tous, peut-être pas tous, mais... Tu peux commander ton livre et l'avoir en 24 heures. Bah, tu ne vas pas le lire, en fait.
Oui.
Tu vas l'accumuler.
Oui, je suis complètement d'accord. Oui.
Alors qu'un livre que tu es allé chercher en librairie, que tu as choisi...
Mais tu l'as désiré.
Tu l'as désiré.
Et c'est exactement ça. Oui.
Et c'est ça qui est quand même...
Oui.
Donc, en gros, on a pareil pour... je ne sais pas, pour n'importe quoi, en fait. Aujourd'hui, puisqu'on peut tout acheter et qu'on peut tout avoir sous 48 heures, tout, y compris des humains. Hein.
Oui.
Enfin, avec des applications de rencontre, c'est pareil. Hein.
Oui, donc, totalement vrai.
Bah, du coup, ça a cassé le plaisir.
Oui, tout ce que tu dis est très vrai.
Enfin, moi, je juge pas du tout les gens qui vont sur des applications de rencontre, au contraire. Mais je dis juste que ça peut paraître parfois comme de l'abattage. Quoi. Ça peut paraître comme de l'abattage.
Oui. Oui.
Autant d'un côté que de l'autre.
Oui.
Toi, quand tu es en demande...
Parce que c'est de la consommation pure. Parce que où est la notion de désir quand tout est accessible, quand tout est immédiat, quand il n'y a même plus la notion même de rareté ou de plaisir de la rencontre, quand tu juges quelqu'un sur une photo, comment tu peux même le désirer ?
Et puis, tu vois, j'en viens aussi... Enfin, j'essaye d'extrapoler, mais quand tu assouvis tes petits désirs, c'est-à-dire que tu abandonnes d'une certaine manière ce que tu es censé faire, c'est-à-dire le sens de la responsabilisation, parce que à force de dire c'est moi d'abord, c'est mon désir, bah, y a des choses qui s'écroulent en fait.
Oui.
Et là, je parle de l'éducation des enfants, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi, quelqu'un qui décide du jour au lendemain de se dire bah non, rien à foutre. Si j'ai décidé de partir, je pars, que ce soit d'une société, d'un pays, de peu importe. Voilà. Et le désir n'est pas toujours sans conséquences graves.
Évidemment.
Voilà.
Oui,
Donc,
c'est tout le ce lien à l'autre, c'est tenir compte de l'autre, c'est regarder l'autre, c'est toute la notion d'empathie en fait, c'est essayer au maximum de se mettre à la place de l'autre. Il existe autant que tu existes, que j'existe.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, c'est vraiment la liberté a un coût. C'est-à-dire que et parfois, les gens veulent pas de ce coût-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est
C'est exactement
que, tu
ça.
vois,
Oui.
c'est-à-dire que, ouais, tu peux tous les jours décider d'écouter ton désir, mais dans ce cas, il faut assumer les conséquences.
Oui.
Et j'ai un peu le
Oui.
sentiment que parfois, de plus en plus souvent, dans plein de champs de la société, les gens n'assument pas les conséquences de la réponse à leur désir, quoi.
Bah, totalement. C'est l'exemple classique, le couple où c'est très malheureusement très souvent les hommes qui partent parce qu'ils en ont marre, alors qu'il y a des enfants, il y a je ne sais pas quoi, et que tout d'un coup j'ai le désir d'autre chose, de vivre une autre vie, de voir ailleurs. Mais c'est quoi? Enfin, c'est quand il y a quelqu'un d'autre, quand il y a un enfant, quand il y a... Je comprends, je ne suis pas du tout contre le divorce, hein, bien
Non, mais c'est pas le
évidemment. Hein,
sujet, mais
mais
c'est vrai que bah s'il y en a plus qu'avant, c'est
c'est
que
ça,
tu vois,
ça veut dire quand même quelque
ça veut dire
chose.
quelque
Oui,
chose.
évidemment,
Et parce
évidemment.
qu'avant, voilà, on le sait tous, avant, les hommes ou les femmes satisfaisaient leurs désirs, mais ne plaquaient pas tout pour autant.
C'est exactement ça,
Alors, qu'est-ce qu'il y
oui.
avait de vrai, qu'est-ce qu'il y a de bon ou de pas bon là-dedans, je ne sais pas. Mais au bout du bout, tu plaquais pas tout, quoi. Enfin, tu prenais tes dispositions. On pourrait en parler pendant des heures. En tout cas,
Oui.
merci parce que tu m'as appris plein de choses.
Je t'en prie.
C'était un épisode très philosophique.
Oui, plus
Et
philosophique que
et
d'habitude.
c'est chouette aussi, ça me fait du bien, moi. Donc merci Alix, on se retrouve le mois prochain pour
Avec
un nouvel
plaisir.
épisode. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.
Merci Estelle, merci à toutes, merci à tous. Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.